ça me donne envie.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode de Sherazade ?
Bonjour d'abord.
Bonjour, pardon.
Y a Sherazade, elle a commencé à raconter le conte d'Ali Baba. C'est l'histoire d'un pauvre bûcheron qui découvre une grotte où il y a des voleurs qui cachent leur butin.
Et après, Ali Baba, il est allé voir dans la grotte quand les voleurs ils sont partis. Il a découvert plein d'or, plein de tapis. Et donc, il en a ramené sur ses mulets. Mais il a dû raconter tout à son frère.
Continue.
Bah, du coup, le frère, vu qu'il a su ça, il a voulu tout rapporter très bien.
Ah ouais. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Il est mort? Il a rapporté? Il est riche?
On va le savoir maintenant.
Mais Kassim fut surpris et tué par les voleurs, qui mirent son corps en quatre morceaux. Ali Baba, inquiet de ne pas voir revenir Kassim, se rendit à la grotte. Il y découvrit le corps de son frère et le rapporta en cachet. Mais comment faire pour que personne ne sache ce qui s'était passé? Ali Baba, avant d'enterrer le corps, le fit recoudre par un savetier, Baba Mustapha. Pour que celui-ci ne reconnaisse pas la maison de Kassim, on lui banda les yeux en chemin. Kassim, enterré, Ali Baba décida d'aller habiter avec sa femme dans la maison de son frère. Cependant, les voleurs avaient compris que quelqu'un, en plus de Kassim, connaissait leur secret. Le chef envoya l'un de ses hommes en ville pour essayer de découvrir qui avait emporté le cadavre. S'il ne réussissait pas, il serait mis à mort à son retour.
Arrivé à la ville, le voleur rencontra Baba Mustapha. Et celui-ci lui raconta qu'on l'avait mené dans une maison, les yeux bandés, pour recoudre un mort. « Si je vous bande les yeux, dit le voleur, vous pourrez peut-être vous rappeler le chemin parcouru. Venez donc avec moi. Comme récompense, voici une pièce d'or. » Le petit vieux se leva et conduisit le voleur jusqu'à l'endroit où on lui avait bandé les yeux. « C'est ici que l'on m'a mis un bandeau. Je suis parti ensuite dans cette direction. »
Le voleur avait un mouchoir tout prêt. Il banda les yeux de Baba Mustapha, qui se laissa conduire. « Je crois bien que je ne suis pas allé plus loin, » dit le savetier au bout d'un moment. En effet, il se trouvait devant la maison de Kassim. Avant de lui ôter le mouchoir des yeux, le voleur fit rapidement une croix sur la porte. Puis, il demanda s'il connaissait le propriétaire de la maison. Mais Baba Mustapha n'était pas du quartier et répondit que non. Voyant qu'il n'apprendrait rien de plus, il laissa le vieillard retourner dans sa boutique et se dirigea vers la forêt, sûr d'être bien reçu par son chef.
Quelques instants plus tard, Morgiane, l'esclave de Kassim, sortit de la maison. Comme elle était adroite et très fine, elle remarqua tout de suite le signe fait sur la porte. Que signifie cette marque? Dit-elle en elle-même. Il vaut mieux être prudent. Morgiane prit une craie et fit des marques semblables sur les portes voisines.
Le brigand avait raconté son histoire aux autres et tous, la nuit venue, prirent la route de la ville. Mais, quand ils arrivèrent à l'endroit indiqué, ils virent que toutes les portes avaient le même signe. Toute la troupe retournait à la forêt, et le voleur fut mis à mort. Deux ou trois jours plus tard, un autre voleur fut envoyé en mission. Il agit de la même manière et marqua une croix rouge sur la porte indiquée par Baba Mustapha. Puis, il retourna dans la forêt. Mais, comme la dernière fois, Morgiane vit la croix et fit exactement la même sur toutes les maisons de la rue. Ainsi, quand la troupe de voleurs arriva, elle fut aussi déçue que la fois précédente.
Le deuxième voleur fut tué. Le chef, furieux contre ses hommes, décida d'agir seul. Il alla en ville, donna de l'or à Baba Mustapha et parvint ainsi devant la porte de la maison de Kassim. Mais, au lieu d'y faire un signe quelconque, il la regarda tellement bien que tous les détails se gravèrent dans sa mémoire. Il retourna à la caverne et dit à ses hommes : Le moment est venu de nous venger. J'ai tellement bien regardé la porte que je suis sûr de la reconnaître. Voilà quel est mon plan.
En quelques mots, le chef des voleurs expliqua à sa troupe ce qu'il avait décidé. Puis, il envoya ses hommes acheter 19 mulets
et 38 grandes outres de cuir pour transporter l'huile.
Le chef se mit à la tête du convoi, prit le chemin de la ville et alla frapper à la maison d'Ali Baba.
Seigneur, lui dit-il, j'amène l'huile que vous voyez pour la vendre demain au marché. Mais à l'heure qu'il est, je ne sais pas où aller loger. Pourriez-vous me recevoir chez vous pour la nuit ? Je vous en serai très reconnaissant.
Vous êtes le bienvenu, dit Ali Baba. Entrez.
Aidé des domestiques, le chef des voleurs déchargea ses mules et rangea ses outres dans la cour. Puis, il suivit Ali Baba dans la salle où l'on servait le dîner. Quand la nuit fut complètement tombée, le chef des voleurs alla dans la cour et, s'approchant des outres, il dit à mi-voix : Quand je jetterai des petites pierres de la chambre où l'on me loge, ouvrez vos outres en les fendant du haut en bas et sortez. Je serai là.
Cela fait, il rentra. Au cours du banquet, Morgane s'aperçut qu'il n'y avait plus d'huile à la maison et que les lampes allaient bientôt s'éteindre. « Va donc en prendre un peu dans les outres de ce marchand, » lui dit l'une des esclaves. Morgane, munie d'une cruche, alla dans la cour. Quand elle se fut approchée du premier vase, elle entendit une voix qui disait « C'est le moment ?»
Tout autre que Morgane serait effrayée et aurait crié au risque de causer le malheur de toute la maison. Mais cette esclave courageuse et intelligente comprit vite ce qui avait dû se passer. Aussi, elle répondit à voix très basse.
« Non, pas encore !»
Elle passa près de toutes les outres et, à chaque demande, elle fit la même réponse. Enfin, elle trouva la seule outre qui était pleine d'huile. Elle en remplit sa cruche et retourna à la cuisine. Là, elle prit un grand chaudron qu'elle alla remplir à l'outre des voleurs. De retour dans sa cuisine, elle alluma un grand feu et y mit le chaudron.
Quand l'huile commença à bouillir, l'esclave retira le chaudron du feu et se dirigea de nouveau dans la cour sans faire de bruit. Puis elle versa de l'huile bouillante dans chacune des outres. Les voleurs, surpris, ne poussèrent même pas un cri. Pendant ce temps, le banquet continuait. Morgiane devait exécuter une danse en l'honneur de l'invité. Aussi se dépêcha-t-elle d'aller s'habiller. Elle cacha dans la manche de sa veste un poignard et se dirigea dans la salle du repas.
Sur un signe de son maître, Morgiane commença à danser. Elle était souple et légère, et le chef des voleurs, émerveillé, semblait oublier qu'il était là pour tuer Ali Baba. Mais soudain, Morgiane s'approcha de lui et le poignarda. « Malheureuse !» cria Ali Baba. « Qu'as-tu fait ?»« Je t'ai sauvée, toi et ta famille, » répondit Morgiane. « Suis-moi plutôt dans la cour, » poursuivit-elle.
Ali Baba ne dit mot et suivit la servante dans la cour. Là, Morgiane ouvrit les outres, l'une après les autres, sous le regard de plus en plus étonné de son maître. Quand il eut compris ce qui s'était passé, Ali Baba regarda Morgiane et lui dit « Morgiane, pour te prouver ma reconnaissance, je te demande d'accepter mon fils comme mari. »
Quelques jours plus tard, après avoir fait disparaître les corps des 38 voleurs, Ali Baba célébra les noces de Morgiane et de son fils. Cependant, Ali Baba n'avait pas oublié la grotte merveilleuse. Mais il n'osait pas y retourner parce qu'il supposait que deux autres voleurs étaient encore vivants.
Mais au bout d'un an, quand il eut vu que personne ne l'avait inquiété, il retourna dans la forêt. Comme par le passé, il retrouva le rocher et prononça les paroles magiques. La porte s'ouvrit, et il comprit que personne n'aurait pu y venir depuis la mort des 38 voleurs. Désormais, Ali Baba était le seul à connaître les paroles magiques et la grotte mystérieuse. Il fut généreux avec tout le monde et vécut dans une grande splendeur ainsi que ses descendants.
De nouveau, Scheherazade s'était tue.
Ce petit manège se répéta la nuit suivante, puis celle d'après, et encore celle d'après. Il dura en fait 1001 nuits. Au bout de tout ce temps, le sultan avait totalement oublié sa colère. Il n'avait pas pu s'empêcher d'admirer le courage et la sagesse de Scheherazade.
Ainsi, Scheherazade calma la colère du Shahriar et sauva son peuple. Avec Lucille, Malia, Zélie,
Charlie,
Clémentine
et Juliette,
avec Gabriel,
Anna,
Jeanne
et Ernest,
avec Marina Berech au violon,
au basson Johanna Pinsec,
aux percussions Julien Garin,
à la clarinette Tanguy Gaillavardin,
à la rému au hautbois
et à la trompette Stéphane Gouitz.
On vous retrouve bientôt
pour une nouvelle émission de Cham Radio.
Ça me donne envie.